Séminaire sur le Dehanima Sajoda, le 13 novembre 1986.
Avant d'aborder le sujet proprement dit de cet exposé, qui est consacré au premier chapitre de l'âme d'Aristote, il nous est apparu utile, étant au seuil de ce grand traité, de situer brièvement la place et l'importance de la philosophie du vivant dans l'ensemble de la pensée d'Aristote. Si le livre du traité de l'âme est reconnu à peu près unanimement comme étant un livre tardif, ce serait l'un des derniers livres écrits par Aristote. Il semble que très tôt Aristote se soit intéressé à la fois à l'étude de la philosophie de la nature et de la vie des animaux. Nous savons que son père était un médecin célèbre, mais qui mourut vraisemblablement avant d'avoir eu le temps de former son fils à son art. Il est donc difficile d'apprécier l'influence personnelle de Nicomaque, son père, et celle de son art médical sur la formation du jeune Aristote. Mais on peut dire d'une façon générale que toute l'école médicale a eu, en Grèce, une grande influence sur la pensée philosophique. Aussi, les premiers de ses livres relatifs au vivant sont-ils essentiellement consacrés à l'étude de la cause matérielle des vivants, à savoir les corps organiques. Il s'agit des traités sur les parties des animaux, et sur la marche des animaux. Par ailleurs, Aristote a été 20 ans disciple de Platon, dont toute la philosophie est sous-tendue par le problème de l'âme. Mais Platon reste dépendant des traditions religieuses, qui professent un dualisme entre une âme spirituelle et immortelle et un corps auquel l'âme est unie de façon accidentelle et contre nature, et comme sous l'effet d'un châtiment. Nous ne discuterons pas ici de savoir si Aristote a fait sienne la conception platonicienne des rapports de l'âme et du corps pour s'en séparer par la suite, ou s'il l'a toujours rejetée. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais accepté les formes idéales, et par là même la conception platonicienne de la connaissance. Or, c'est seulement par une réflexion sur la connaissance que nous pouvons comprendre les liens entre l'âme et le corps. En effet, notre connaissance est à la fois spéculative, donc au-delà du monde physique et sensible. Physique et donc liée au corps. D'où la réaction d'Aristote qui va revenir à un aspect proprement philosophique impliquant un primat de l'expérience en vue d'élaborer une véritable philosophie du vivant, ce que n'avait pas fait Platon, en cherchant ce qu'est l'âme, son thyesti, principe radical de vie et source des opérations vitales. Ensuite, il reviendra au comment de l'âme, aux poses de l'âme, en vue de trouver la réponse, une réponse à la grande question qui mobilise tout philosophe qui veut réfléchir sur l'homme. L'âme est-elle séparée ? L'âme est-elle immortelle? C'est du reste la question qui est sous-jacente à tout le traité sur l'âme, même si la réponse définitive ne relève pas de la philosophie du vivant. Nous voyons là combien la philosophie d'Aristote est enracinée dans celle de Platon, mais combien la voie qu'il emprunte est tout à fait originale. Mais en abordant l'étude du vivant, Aristote se trouve devant un problème d'une complexité et d'une difficulté tout à fait nouvelles. En effet, le vivant occupe une position stratégique, une sorte de carrefour, charnière entre le monde physique et le monde spirituel, une sorte d'intermédiaire, de métaxu, entre le devenir, qu'étudie la philosophie de la nature, et l'être, qui étudie la philosophie première. et qui demande de s'épanouir dans une éthique. Aristote ne place-t-il pas la contemplation au terme de son éthique? On devine l'intérêt primordial que représente, pour la connaissance de la pensée philosophique d'Aristote et de sa méthode, l'étude de ce traité de l'âme, et tout particulièrement de ce chapitre introductif, où, selon son habitude, Aristote mène une réflexion méthodologique et critique d'autant plus riche que son objet est ardu et que l'auteur est dans sa pleine maturité. Alors, je vais commencer le commentaire de ce premier chapitre. Ce sera un commentaire qui suivra, enfin littéral, qui suivra le texte d'Aristote, parce que je présume que tout le monde n'a pas lu le texte. Alors, on va suivre le texte. Aristote commence à montrer la noblesse et la dignité de la connaissance de l'âme. Il dit « C'est au nombre des valeurs suprêmes que se range le savoir. » Dès le début de son traité, Aristote montre que le savoir, la connaissance, fait partie des choses honorables, c'est-à-dire qui rapproche le savoir, rapproche l'homme de sa finalité. Il situe donc implicitement la connaissance de l'âme dans la connaissance spéculative, dont le propre est d'avoir sa finalité en elle-même. Le philosophe veut connaître pour connaître. Et tout de suite, Aristote précise qu'il y a une hiérarchie dans le savoir, et cette hiérarchie se prend selon deux principes. D'une part, la précision, akribeia, qui regarde la qualité du sujet connaissant. En effet, nous aurons une connaissance parfaitement précise quand nous arriverons à avoir une connaissance parfaite des causes. Alors la pénétration et le discernement de l'intelligence seront optimaux. D'autre part, à côté de la précision, il y a l'objet qui peut posséder une plus ou moins grande dignité. Aristote poursuit tout de suite après en disant « Aussi, pour ce double motif, l'étude de l'âme peut-elle, à juste raison, être placée au premier rang ?» Aristote n'a dit cela que de la philosophie première. On peut donc affirmer que, pour lui, la connaissance de l'âme représente un des sommets du savoir. On peut justifier cette affirmation en remarquant qu'en saisissant le principe propre des vivants, l'étude de l'âme remplit le critère de la précision. Quant à l'objet, sa dignité est unique, puisqu'il s'agit de l'homme vivant spirituel. Ensuite, Aristote nous montre l'utilité de cette étude. Il dit « De surcroît, la connaissance de l'âme semble servir grandement celle de la vérité en général et la science de la nature au tout premier chef. L'âme est en effet comme le principe propre des animaux. » Alors, en tant qu'il y a saisie d'un nouveau principe propre de la réalité, la connaissance de l'âme, par son caractère spéculatif, est une contribution à une meilleure connaissance de la réalité, donc de la vérité en général. De plus, elle permet la connaissance du nous, dont l'épanouissement implique une philosophie première qui est pleinement recherche de la vérité pour elle-même. Et en tant que partie intégrante de la science de la nature, pour Aristote, la connaissance de l'âme en est le sommet, mais aussi, nous le verrons, le dépassement. Ensuite, Aristote recherche le but de cette connaissance et de cette recherche. Il dit « Le but de notre recherche est donc de considérer et de découvrir d'abord la phusis et l'ousia de l'âme, puis toutes les propriétés qui s'y rattachent. Certaines semblent affecter l'âme en propre, tandis que les autres s'étendent par l'âme à l'animal tout entier. L'âme est principe du devenir du vivant. C'est en quelque sorte la considérer comme phusis. Et l'âme, par l'induction, sera découverte comme principe d'être. » Ousia. Aristote signifie par là que cette connaissance a une place tout à fait particulière dans la philosophie, puisqu'elle implique à la fois la philosophie de la nature et la philosophie première. L'âme est véritablement, comme nous l'avons dit précédemment, charnière entre le monde physique et le monde spirituel. et l'impossibilité de réduire l'étude de l'âme à l'une des deux sciences, à l'exclusion de l'autre, est manifeste dans le fait que parmi les propriétés de l'âme, certaines semblent appartenir en propre à l'âme, donc n'impliquant pas le corps, et d'autres appartiennent par l'âme au vivant tout entier, et donc affectent le corps. Il faut aussi souligner que le but de cette recherche est d'aboutir à une connaissance scientifique au sens aristotélicien du mot, c'est-à-dire découvrir le principe, la cause propre du vivant, et en déduire les propriétés. Ensuite, Aristote, et pratiquement jusqu'à la fin du chapitre, va poser toutes sortes de questions qui mettent en lumière la grande difficulté de cette étude. Et il commence par se poser le problème de la méthode à employer. Aristote dit que, je cite, « c'est une tâche très difficile de parvenir à une certaine pistis au sujet de l'âme. » Enfin, il est marqué certitude ou précision, ou certitude. Alors le mot pistis est employé dans les seconds analytiques à propos du jugement par lequel on saisit un principe au terme d'une induction. Il s'agit donc d'une adhésion plénière qui suit la connaissance nécessaire. Mais la saisie du principe au terme de l'induction est un toucher du nous qui saisit dans la réalité ce qu'elle a de plus intelligible en elle-même, mais qui est le moins directement connaissable pour nous. Aristote poursuit en disant que la présente recherche est commune à beaucoup d'autres disciplines. J'entends la recherche de la substance et du tiesti. Aristote indique là clairement qu'il est dans une voie de recherche et d'analyse proprement philosophique. Il quitte le pos dans lequel était resté Platon pour rechercher le tiesti. Et Lucias et le tiesti premier prient fondamentalement ce qu'il y a de premier dans un être. Et Aristote poursuit. Aussi pourrait-on croire qu'il existe une méthode unique pour tous les cas où l'on veut connaître la substance, telle pour les accidents propres, la démonstration. Aristote montre ce grand désir que l'on a toujours de trouver une méthode unique pour tous les cas, et ce serait une méthode unique pour tous les cas où l'on veut connaître la substance, ce qui permettrait tout simplement de déduire de la substance connue au niveau métaphysique ce qu'est l'âme. Ce sera le fait de la scolastique d'appliquer les principes de philosophie première dans tous les autres domaines de la philosophie. Et d'autre part, pour Descartes, seul le raisonnement déductif est reconnu comme juste et scientifique. Et enfin, ce sera la tentation permanente de la dialectique qui veut toujours rester dans l'immanence de son raisonnement. Mais Aristote nous montre ensuite, par la suite, que si par contre il n'est pas de méthode unique commune aux recherches sur le tiesti, l'entreprise devient encore plus difficile. Il faudra en effet saisir pour chaque objet particulier quel est le procédé de recherche approprié ? Et si l'on vient à découvrir quel est celui-ci, démonstration, division ou toute autre méthode, beaucoup de difficultés et risques d'erreurs subsistent pour la détermination des principes de la recherche. À objets différents, principes différents. Ce passage est capital et montre que le réalisme de la connaissance oblige de distinguer diverses branches dans la philosophie, et que la philosophie ne peut être systématique. Chacune des branches de la philosophie doit reposer sur une expérience propre, ici dans une vision critique, Aristote parle d'objet propre, qui est un regard approprié à un aspect donné de la réalité. Ici, dans notre cas, l'expérience du vivant, qui est irréductible aux autres expériences. C'est l'objet particulier qui spécifie ma connaissance, qui va impliquer la saisie de principes propres. La recherche des principes existe donc nécessairement dans chacune des branches et se fera chaque fois de façon originale, d'où la difficulté de la recherche propre à chacune des branches de la philosophie. Et dans l'œuvre d'Aristote, on constate que c'est de manière très différente qu'il atteint les différents principes. Autre chose est d'induire la phusis, principe de la réalité en tant qu'elle est nue, autre chose est d'induire le bien, principe de l'agir humain, autre chose est d'induire l'ousia, principe selon la forme de la réalité en tant qu'elle est. Chacune de ces recherches part d'une expérience différente, et l'intelligence, par une interrogation particulière, met en relief un aspect différent de la même réalité. C'est en fait le caractère fondamental de la connaissance analogique. On peut encore remarquer combien Aristote est discret quand il s'agit de l'induction. En effet, la méthode à découvrir ne peut être ni une division qui dégage les éléments mais non les principes. La division précède la saisie des principes, du principe, et le principe est au-delà des éléments et en fait l'unité. Ce ne peut pas être une démonstration qui concerne les propriétés et présuppose donc la découverte du principe. L'induction est donc chaque fois à découvrir, car c'est un procédé purement qualitatif et donc reste toujours difficile et caché. Étant donné la difficulté particulière de la recherche du tiesti de l'âme, Aristote, par une sorte de procédé de division, va confronter la notion commune d'âme à des distinctions déjà connues, en vue de dégager une signification et une première définition de la notion commune d'âme. Tout cela pour préciser quelque peu ce sur quoi va porter l'induction et nous disposer à mieux la faire. Il annonce ici la première approche de l'âme qu'il donnera au début du livre 2, qui vise à donner un logos commun de l'âme. Et Aristote de dire, il faudrait sans doute déterminer de quel genre l'âme relève et ce qu'elle est. Je veux dire si elle est un todeti et une substance, une qualité, etc. Il essaie de classer l'âme dans l'une des catégories. Autrement dit, l'âme signifie-t-elle un todeti, une substance, une qualité ou une autre catégorie ? Puis il confronte la notion commune d'âme à la division être en acte et être en puissance. Il ajoute, le problème n'est pas de mince importance. Grâce à ces divisions, il va préciser à quel niveau va se placer l'âme selon un procédé dialectique qui déblaye en quelque sorte le terrain pour préparer l'induction. Il faut souligner que ces deux divisions seront fondamentales et accompagneront toute la recherche sur les différentes activités de l'âme. En effet, l'âme est substance et pourtant l'homme, corps et âme, n'est qu'un seul être. L'âme est entéléchie et pourtant elle est en puissance par rapport à l'exercice des opérations vitales. Ensuite, Aristote se pose un autre problème. Il faut encore examiner si l'âme est divisible en partie ou indivisible, si toutes les âmes sont de même espèce ou non, et dans la négative, si elles diffèrent par l'espèce ou par le genre. Aristote constate deux gammes de diversité différentes. La diversité des vivants, qui va de la plante à l'homme, et même jusqu'à Dieu, d'après lui, puisque pour lui, les corps célestes sont des vivants. Et la diversité des opérations vitales, effectuées par le même vivant. Face à la diversité des vivants, Aristote cherche s'il existe vraiment un logos commun pour tous les vivants. Et en passant, il donne un coup de patte à Platon, qui avait limité son examen à la seule âme humaine en tant qu'âme spirituelle. À travers la diversité des vivants, il y a quelque chose de commun. Ce sera la première approche de l'âme, du premier chapitre du livre 2, mais qui touche quelque chose de rudimentaire quant à la connaissance de l'âme, et qui n'est pas le principe en tant qu'il est induit. Et face à la diversité des opérations vitales, il se pose la question, l'âme est-elle divisible ou indivisible ? Comment établir un ordre parmi des activités apparemment si hétérogènes ? Aristote nous dit, si les âmes ne sont pas multiples, mais seulement les parties de l'âme, la recherche doit-elle porter d'abord sur l'âme entière ou sur ses parties ? Cet ordre ne peut être qu'un ordre d'inclusion mutuelle. Ainsi, le fait de se nourrir, de croître, et l'aspect fondamental sans lequel un vivant qui possède la sensation n'existe pas. Et le fait de sentir est lui-même toujours réalisé chez ceux qui pensent. En anticipant quelque peu, On peut dire que ces deux diversités dans lesquelles les vivants se donnent concrètement à nous vont être le tremplin pour l'induction de l'âme comme principe. Il faut souligner que c'est à partir de l'aspect le plus fondamental de la vie, la nutrition, qu'Aristote induira l'âme comme principe radical de vie. Puis l'âme sera découverte comme source unique des opérations vitales. Aristote poursuit. C'est encore un difficile problème de déterminer lesquelles de ces parties se distinguent naturellement les unes des autres. À propos de l'étude des parties de l'âme, Aristote fait une réflexion méthodologique capitale. Il dit, faut-il examiner en premier lieu les parties ou leurs actes, l'intellection ou l'intellect, la sensation ou la faculté sensitive? C'est donc par les actes qu'on va distinguer les différentes parties de l'âme. Et Aristote poursuit, mais si l'étude des actes est première, une nouvelle question se présente. Les objets de ces actes doivent-ils être étudiés avant ces actes mêmes, par exemple le sensible avant la faculté sensitive, l'intelligible avant l'intellect? C'est précisément à l'occasion de l'étude du premier degré de la connaissance sensible, qu'Aristote précise le lien entre l'objet qui détermine et les opérations. Pour lui, il est clair que pour connaître les parties de l'âme, il faut regarder les opérations qui seules sont directement accessibles, et pour connaître les opérations, il faut connaître les objets qui les déterminent. En effet, l'objet, qui est ce qui se tient devant, c'est la réalité en tant qu'elle spécifie l'opération. Il est le fruit d'une analyse de la connaissance. On voit la grande opposition entre la connaissance de l'objet selon Aristote et les modernes. La phénoménologie, par exemple, ne peut pas saisir l'objet en dehors de l'exercice de l'opération, ce qui a pour effet d'enfermer l'esprit dans l'immanence de l'exercice de l'opération, d'où sa séduction. Aristote se distingue là aussi nettement de Platon et de Plotin par son réalisme. C'est la réalité qui détermine. Cette réflexion méthodologique d'importance capitale montre la nécessité de distinguer ce qui spécifie, donc la cause formelle, de l'exercice. C'est la condition sine qua non du réalisme philosophique. Dans le paragraphe suivant, Aristote donne un critère qui permet de vérifier si le thiesti a été réellement atteint. Il dit: il ne suffit pas de dire, semble-t-il, que la connaissance du thiesti soit utile à l'étude des causes des propriétés des substances. Aristote parle là du procédé de démonstration de la propriété à partir du thiesti, du principe. Mais il ajoute plus loin. Il faut ajouter qu'inversement, la connaissance des propriétés contribue pour une large part à celle du thiesti, ce qui est plus délicat à interpréter. On pourrait dire que d'une certaine manière, la connaissance des propriétés, du comment, dispose à la saisie du thiesti avant sa découverte. Mais Aristote précise plus loin. Lors donc que nous serons en mesure de rendre compte des propriétés telles qu'elles apparaissent, soit de toutes, soit de la plupart d'entre elles, alors pourrons-nous traiter au mieux de la substance elle-même. Le principe de toute démonstration, en effet, c'est le thiesti. Aussi, toutes les fois que les définitions ne permettent pas la connaissance des propriétés, ni même une conjecture aisée à leur sujet, est-il clair que toutes ces définitions sont dialectiques et sans valeur. Aristote précise nettement que le principe de toute démonstration, c'est le thiesti. Le rôle des propriétés dans la connaissance du thiesti se trouve plutôt dans une vérification par la réalité. La définition est en quelque sorte mise à l'épreuve dans un retour au vivant concret pour découvrir le principe réalisé en lui sous forme particulière, ce qui est une confirmation de notre connaissance de ce principe, qui est en lui-même ineffable. Autrement dit, la recherche du Tiesti ne pourra s'arrêter que lorsque l'on aura véritablement saisi le principe lui-même dans la réalité, qui seul peut rendre compte de toutes les propriétés. Tout ce qui n'atteint pas cette profondeur dans l'intelligibilité de la réalité demeure, dit Aristote, dialectique et sans valeur. C'est l'exigence fondamentale du réalisme d'Aristote de mener cette recherche de vérité jusqu'au bout, jusqu'à la découverte du principe propre. On voit que toutes les apories, toutes les difficultés que soulève Aristote, en posant toutes ces interrogations, elle nous révèle les intentions profondes de l'auteur sous son aspect subjectif par rapport à cette recherche de l'âme. Et parmi ces interrogations, il en est une qui sera présente, au moins de façon implicite, dans tout le traité de l'âme. L'âme peut-elle être séparée ou bien est-elle nécessairement liée au corps? Il la pose ici, cette question, quand il aborde les attributs de l'âme. Il se demande, affecte-t-il tous en commun le sujet animé, ou en est-il un qui appartienne à l'âme en propre? En décider est à la fois nécessaire et malaisé. C'est nécessaire, d'une part, parce que ses prédécesseurs ont soit immergé l'âme complètement dans la matière, soit l'en ont séparé radicalement. Et donc cela fait partie des exigences de recherche de la vérité que d'y apporter une réponse. Mais d'autre part, montrer l'existence d'un attribut qui affecte l'âme en propre est la condition nécessaire à l'éventuelle séparation de l'âme. Et la question est malaisée car, dit Aristote, dans la plupart des cas, l'âme ne subit aucune passion et n'accomplit aucune action qui n'intéresse le corps. Mais, poursuit-il, par contre, l'intellection semble éminemment propre à l'âme. D'où la question qui ne cessera de diriger la recherche d'Aristote. Le nous est-il ou non séparé de la matière? Est-il l'imagination? Dans ce cas, il ne différerait en rien des passions sensibles qui sont manifestement liées au corps. Ou bien est-il seulement conditionné par l'imagination dans son exercice, et dans ce cas, le nous est séparé. Et Aristote de poursuivre. Si donc il existe un acte ou une affection de l'âme qui lui appartient en propre, celle-ci pourra exister à l'état séparé. Si par contre aucune ne lui est propre, l'âme ne pourra exister séparée. La question de la séparation du nous est une condition nécessaire pour que l'âme puisse être séparée. Mais Aristote, n'ayant pas précisé les rapports exacts entre les puissances de l'âme et l'âme comme principe radical de vie, ne déduit pas la séparation de l'âme directement de la constatation d'un nous séparé. Ce serait passer d'un ordre intentionnel à l'ordre substantiel, ce que ne peut faire le philosophe. Aristote montre simplement que s'il y a un nous séparé, il existe une possibilité pour l'âme d'être séparée. Mais répondre à cette question et à celle sous-jacente, à savoir celle de l'immortalité de l'âme, n'est pas du ressort de la philosophie du vivant. Et Aristote ne donnera pas de réponse dans son traité de l'âme. La question nécessaire étant remplie, seule la sagesse pourra apporter une réponse à cette question primordiale pour le philosophe qui réfléchit sur l'homme dans toutes ses dimensions. L'expérience des affections de l'âme manifeste l'union étroite à ce niveau entre l'âme et le corps. Aristote en donne plusieurs arguments à partir de l'expérience, et il achève en disant « Voici une preuve encore plus manifeste. En l'absence de toute cause d'effroi, on peut éprouver les affections mêmes qui caractérisent la frayeur. Dans ces conditions, il est évident que les affections de l'âme sont des formes, logos, engagé dans la matière. Aussi, les définitions doivent-elles être formulées en conséquence. Et donc prendre ces deux éléments, matière et forme, en vertu même des exigences requises pour une définition qui ne soit pas dialectique et vide de sens, comme Aristote l'a dit précédemment. Et Aristote de conclure. Voilà pourquoi il appartient donc aux physiciens de traiter de l'âme, soit de toute espèce d'âme, soit de l'âme telle que nous la décrivons. Dans la fin du chapitre, Aristote est ainsi amené à préciser de quelle branche de la philosophie relève l'étude de l'âme. Cela est d'autant plus difficile que de fait le rapport entre les pathés de l'âme et le corps est différent selon les niveaux de vie considérés. Et Aristote, de fait, se trouve devant deux manières extrêmes de définir l'âme. Celle des dialecticiens qui ne regardent que le logos, la forme, ils pensent à Platon, pour qui la matière est du non-être, et celle des physiciens qui ne regardent que le point de vue matériel. Et là, ils disent Démocrite. Aristote dépasse cette opposition en affirmant que la vraie philosophie de la nature doit regarder en premier lieu le logos, mais le logos enraciné dans la matière. À l'aide de l'exemple de la maison, qui implique une notion et des matériaux, il montre, je cite, que le vrai physicien est celui qui embrasse ces deux points de vue. Plus loin, il ajoute, c'est au physicien de traiter de toutes les activités et passivités de tel corps et de telle matière déterminée. Toutes les propriétés qui ne sont pas considérées de ce point de vue relèvent alors d'une autre discipline. Il achève en disant que les déterminations que l'on envisage comme étant séparées de la matière relèvent du métaphysicien. Donc Aristote cherche manifestement, parmi les différentes approches, quelle est celle qui convient à l'âme. Est-ce le regard du physicien qui, dans une même approche, saisit la matière et la forme? Est-ce le regard du mathématicien qui saisit la forme géométrique sans la séparer de la matière intelligible? Ou bien est-ce le regard réellement séparateur du métaphysicien qui convient à l'étude de l'âme et de ses opérations? Étant donné les liens très forts qui existent entre l'âme et le corps pour les pathés du niveau sensible, il est clair que l'âme relève expressément du physicien. Dans les parties des animaux, Aristote précise « Alors il appartient bien aux physiciens de parler de l'âme et de la connaître, sinon de toute l'âme, du moins de cette partie par laquelle le vivant est vivant, l'âme nutritive. Le physicien doit savoir le tiesti de l'âme, ou du moins de cette partie de l'âme. » Le physicien est celui qui s'occupe de la phusis, et la phusis est la substance matière et la substance forme. Elle est aussi moteur, c'est-à-dire cause efficiente et fin. Or cela, l'âme du vivant l'est, du moins en certaines parties de l'âme à l'égard du corps. On retrouve donc ici, dans une perspective critique, la phusis matière et la phusis forme. Au niveau purement épistémologique, l'étude de l'âme demeure donc dans la perspective de la philosophie de la nature. Il montre bien qu'il y a quelque chose de particulier à l'étude de l'âme, mais pas au niveau épistémologique, car on est dans le prolongement de la distinction matière et forme. Bien que ces traités précédents montrent que le corps a une intelligibilité en lui-même, ce qui n'est pas le cas de la matière en philosophie de la nature. Et toujours dans les parties des animaux, Aristote ajoute « Le physicien ne parlera pas de toute l'âme, puisque toute l'âme n'est pas phusis. Les objets abstraits ne peuvent concerner la science naturelle. » Donc, si l'étude de l'âme nutritive, voire de l'âme sensitive et du principe locomoteur relève au moins en partie du physicien, celle du nous dépasse les compétences du physicien. Il faut se demander si l'âme végétative elle-même ne déborde pas le cadre de la physique, puisque le vivant, par le seul fait qu'il se meut, dépasse la phusis. Donc le physicien ne peut aborder l'âme comme il aborde une autre réalité naturelle. Et l'étude du nous, qui relève plutôt du métaphysicien, ne peut-elle non plus faire abstraction des autres puissances de l'âme, l'âme étant une et indivisible. Il faut conclure que c'est l'étude de l'âme tout entière, bien qu'elle ait ses racines en philosophie de la nature et son sommet en philosophie première, qui constitue un domaine qui se situe entre les deux disciplines extrêmes, impliquant l'une et l'autre, et à la fois. Quant aux mathématiciens qui considèrent les déterminations inséparables de la matière en les abstrayant, il ne peut rien dire des affections de l'âme, je cite Aristote, qui sont inséparables de la matière physique des animaux en tant qu'elles leur appartiennent. Leur cas n'est donc pas comparable à celui de la ligne et de la surface, qui elles sont séparables mentalement de la matière. C'est le philosophe de philosophie première qui devra entreprendre l'étude du nous si celui-ci s'avère totalement séparé de la matière, aussi bien intelligible que sensible. Alors je vais conclure en essayant de... Alors, il me semble que l'insistance et le soin que porte Aristote pour situer exactement le statut épistémologique de l'étude du vivant par rapport à la philosophie de la nature et la philosophie première peuvent surprendre à première vue. C'est comme si Aristote exigeait comme condition préalable à la philosophie du vivant celle de la philosophie de la nature et la philosophie première. Pourtant, la connaissance de l'âme implique tout de suite une subjectivité unique. Puisqu'en tant que vivant, je suis dans une situation privilégiée pour connaître mon âme. Ainsi, une philosophie de la conscience mettrait sans conteste la connaissance de l'âme en premier lieu. N'ai-je pas conscience de mes opérations vitales? Et par l'âme, je découvrirai ce qui est mu et ce qui est. Pourquoi Aristote semble-t-il laisser entendre que je connais l'âme en fonction de la phusis et de la philosophie première? N'y a-t-il pas une connaissance propre de l'âme, sui generis, qui pourrait se faire avant la philosophie de la nature et la philosophie première? Par ailleurs, puisqu'en tant que vivant, j'ai une expérience privilégiée, que je puis regarder le vivant de l'intérieur, pourquoi Aristote insiste-t-il tellement sur les difficultés qui se posent au philosophe qui veut étudier le vivant? Ce paradoxe apparent met en pleine lumière l'originalité et la force de la pensée philosophique d'Aristote et explique pourquoi le traité de l'âme a une telle importance dans l'œuvre d'Aristote. On peut dire que le problème de l'âme nous met au carrefour entre l'aristotélisme, le platonisme et le néoplatonisme. C'est qu'Aristote ne cède pas à la grande tentation de croire qu'il y a des concepts qui nous arrivent en dehors de nos sensations et que l'on peut découvrir dans notre âme spirituelle, par une réflexion suffisamment forte, cette marque du divin en soi, les notions transcendantales qui nous rendraient libres par rapport aux expériences sensibles de l'univers. Il ne reste pas au niveau du vécu, il ne vit pas d'intuition. Aristote, qui recherche la vérité pour elle-même, est le premier philosophe à découvrir ce qu'est l'analyse philosophique, qui, partant de l'expérience, recherche le tiesti, et donc les causes propres de la réalité. Cela exige une grande humilité pour l'intelligence, étant donné que c'est l'objet qui spécifiera ma connaissance et qui exigera la découverte d'une méthode inductive chaque fois nouvelle en vue d'atteindre le principe propre d'où l'on déduira les propriétés. C'est la réalité qui est mesure de ma connaissance. D'où la difficulté de l'étude du vivant. Et en ce sens, Aristote est bien le premier à faire une philosophie du vivant. Le vivant est en quelque sorte un intermédiaire, un métaxu entre le devenir et l'être. Il est clair que son étude requiert une perspicacité toute particulière de l'intelligence, déjà éclairée par les principes propres découverts en philosophie de la nature et en philosophie première. Et il n'y aura véritablement philosophie du vivant que quand on aura saisi le tiesti et la cause propre du vivant, et pas avant. Un des signes qu'Aristote y est parvenu, c'est que le traité de l'âme demeure toujours d'actualité, malgré les progrès de la biologie moderne. Autant les traités antérieurs au De Anima, consacrés à la cause matérielle des vivants, domaine d'élection de la biologie, ont terriblement vieilli, autant le De Anima, parce qu'il se situe à un niveau proprement philosophique, continue à nous donner l'intelligibilité profonde du vivant grâce à la connaissance du principe propre des vivants, qu'est l'âme, qui n'a pas changé depuis Aristote, et ce que ne peut absolument pas faire la biologie. La voie rude et ascétique qu'inaugure Aristote, celle de l'analyse philosophique, respectant le primat de l'expérience externe, sans négliger pour autant l'expérience interne, donc ce primat de la connaissance externe, seule garante de l'objectivité de la connaissance et de son caractère analogique, est en vue d'un retour à la grande interrogation de son maître Platon. L'âme est-elle immortelle ? Il sait très bien que la philosophie du vivant ne peut pas y répondre. La philosophie du vivant montre simplement que le nous s'est séparé, donc que la connaissance nécessaire est remplie. Il faudra dépasser le niveau de l'âme pour répondre au problème de l'immortalité de l'âme. Seule la sagesse pourra répondre dans la lumière de la découverte de l'existé de l'être premier créateur, fruit de l'épanouissement ultime de la philosophie première. L'histoire de la pensée philosophique montre que la ligne de crête tracée par Aristote, qui est le réalisme philosophique, ne sera pas maintenue, puisque le néoplatonisme retombera dans la séduction de la voie d'intériorité et d'immanence, dans l'espoir d'atteindre plus directement le transcendant, le divin en nous. Aussi, pourquoi Aristote nous enseigne-t-il tellement dans son traité de l'âme ? C'est que l'étude de l'âme est une sorte de carrefour stratégique, passage obligé de toute philosophie qui veut regarder l'homme, mais c'est aussi le lieu de toutes les séductions.
Merci. Est-ce qu'il y a des interrogations ?
Il me semble qu'à la fin du chapitre, Aristote essaie de différencier l'objet matériel de l'objet formel de la science. Et en fait, je ne sais pas très bien, il montre le carrefour même du vivant. D'une réalité physique est différente pour le physicien et pour le philosophe de philosophie du vivant, mais quel est ce regard formé sur la réalité ?
Ce que je disais au niveau de la méthode, au niveau purement épistémologique, je crois qu'il est difficile de... Ce qui montre simplement, c'est qu'on ne peut pas... Il y a une séparabilité intrinsèque à la réalité ou une inséparabilité. Je crois que c'est là que se situe au fond le grand discernement entre le regard du mathématicien et du physicien. Mais au niveau purement de la méthode, je crois que c'est très difficile de montrer la différence.
Quelle est la lumière qui va lui permettre de regarder l'objet comme la mathématicien ? Quelle est la nouvelle lumière ?
De toute façon, c'est à partir de son expérience propre du vivant, quand même. Il part de là.
Est-ce qu'il montre dans le chapitre ? Quel est l'objet propre de la philosophie du vivant ?
Parce que le chapitre-là, dans sa recherche de méthode, montre implicitement qu'il y a un objet propre à la philosophie du vivant. Ça ne dirait pas qu'il faut trouver une méthode originale à cette philosophie. Donc il y en a une. Mais quant à la méthode, au niveau de la méthode, il ne me semble pas qu'on puisse... En tout cas, il ne donne pas une réponse.
Quand il dit que c'est du physicien que relève toutes les activités, facilités appartenant à un corps, à un tel corps, à une telle matière, il ne répond pas à un...
Non, mais quant à ce qui relève de son aspect-là, il montre bien que le physicien ne peut pas répondre à tout. Donc, négativement, on voit que le physicien ne peut ni regarder le vivant comme il regarde un objet naturel non animé, et qu'en même temps, son regard est dépassé par la réalité qu'il vit.
puisqu'il ne voudrait pas plutôt dire que l'étude du vivant inclut l'étude du physicien, c'est-à-dire que ce serait l'aspect de la cause matérielle. Est-ce que vous voulez dire ça? Que si la
et de fait, si, puisqu'il y a...
Est-ce qu'il n'y a pas que ça? Parce qu'en fin de compte, c'est un aspect beaucoup plus pénétrant et qui inclut en même temps le côté de la chaise du physicien.
Mais si, je crois que c'est ce qu'il montre, en montrant qu'elle est à cheval, il ne peut pas rester au niveau du philosophie de la philosophie de la nature, en tant que telle, n'a pas la puissance nécessaire pour répondre à ce qu'est le vivant.
C'est bien ce qu'il dit quand il montre que l'étude du vivant présuppose l'étude de la physique. Donc ça voudrait dire que, ce ne voudrait pas dire que, en gros, l'étude du vivant englobe l'étude de la physique parce que c'est l'aspect de la cause matérielle.
Oui, si.
Et alors, qu'est-ce qui spécifierait l'étude de la philosophie du vivant, c'est quelle causalité?
Je crois que c'est l'expérience propre du vivant, je crois que ce sera la causalité efficiente, me semble, d'après son induction à partir du principe de nutrition.
Est-ce que ça n'a plus loin
que la causalité efficiente? Mais si, après il découvre que c'est de la causalité formelle et la causalité. Au niveau de la science, c'est de la causalité formelle. C'est-à-dire que c'est l'objet qui spécifie. Mais au niveau de la réalité, découverte de l'expérience propre sera la causalité efficiente. Me semble.
Parce qu'est-ce qu'au sens propre, la philosophie du vivant, s'il ne regarde pas le ciel, si n'englobe pas la philosophie de la nature, est une science.
Et les sciences, si elles découvrent un principe propre à partir d'une expérience propre, mais le vivant faisant partie de l'univers implique le regard du physicien, je crois que c'est un phénomène d'observation.
Il faut bien voir qu'il est en réaction contre Platon. N'oubliez pas ça. Si toute la philosophie de Platon, c'est la philosophie de l'âme. Aristote a été perpétuellement en réalité. fait partie de la philosophie de la nature. Mais pour saisir ce qu'est ce moteur immobile, il faut une nouvelle partie de la philosophie. Pour saisir ce qu'est le nous, il faudra une nouvelle partie de la philosophie. C'est pour ça qu'Aristote dira que la philosophie première, c'est pour étudier Dieu, le moteur immobile, et le nous. C'est très cohérent.
C'est là qu'il faudrait intervenir l'utilisation de la métaphysique au thème de la philosophie de la
nature. C'est sûr, c'est sûr. Attendez, je peux voir la nécessité de poser la philosophie de la nature à partir de la philosophie de la nature. Pas à partir de la philosophie de la nature. Parce que j'aboutis. Qu'est-ce qu'il est? Et c'est pour ça qu'Aristote en philosophie première dit toujours qu'on étudie le tiesti de Dieu. Donc du moteur immobile. Oui. Nous avons, nous, trop marqués, trop conditionnés par la physique contemporaine qui, elle, n'aboutit pas aux premières mesures immobiles. Mais la philosophie de la nature est tout autre que la physique moderne. C'est une philosophie. Et donc une philosophie ne peut pas rester dans ce qui est mu. Elle ne peut pas demeurer dans le monde du composé. Elle aboutit au premier moteur immobile. Vous voyez ? Alors, ça donne à la philosophie de la nature une amplitude énorme. C'est pour ça qu'on vous dit Anima contient la philosophie de la nature, c'est pas vrai. Parce que la philosophie de la nature va jusqu'à Dieu. Oui. Et c'est pour ça que je ne pourrais pas dire la philosophie du vivant, mais pas assumer la philosophie de la nature, c'est pas vrai. Je n'assume pas le premier moteur immobile. Oui. Et le premier moteur immobile fait partie de la philosophie. Je crois que ça c'est très important pour comprendre la position d'Aristote. Enfin, faut-il maintenir entièrement cette position aujourd'hui? Ça c'est une autre question. On essaiera de le comprendre au terme de ce séminaire. Parce qu'on fait ce séminaire pour connaître la pensée d'Aristote, c'est la première chose. Ensuite, on doit toujours se poser la question, pouvons-nous aujourd'hui poser le problème de la philosophie du vivant tout à fait comme Aristote le pose? C'est très vrai ce qui a été souligné, c'est que le traité du Péripsuchès reste toujours actuel, tandis que le traité de la philosophie de la nature, je crois que la Phusis reste toujours actuelle, mais c'est beaucoup plus difficile pour nous de la saisir dans toute sa pureté à cause de la physique. Ça demande, quand vous lisez le Decello par exemple, quand vous traitez le traité de météorologie d'Aristote, hein, vous avez l'impression d'être en archéologie dans le souterrain et vous n'oseriez pas aujourd'hui sortir la théorie d'Aristote pour expliquer ce que représente l'arc-en-ciel. C'est très très beau, c'est très joli. Pas l'esprit. le mesurable, tout ce qui est mesurable, tout ce qui me permet de saisir les lois. Donc le comment, puisque la loi c'est le comment, c'est donc pas ce qu'est la réalité. Alors, je comprends très bien que toutes les philosophies qui de fait, toutes les parties de la philosophie qui sont beaucoup plus proches de la matière, ont été beaucoup plus couées dans les sciences modernes. Il y a quelque chose qui demeure. Je crois que la saisie analogique de la matière reste philosophique. Elle n'est pas saisie par la science moderne. Donc la causalité matérielle demeure une connaissance philosophique. Mais les quantités d'explications sont beaucoup plus à être purifiées, dépouillées. Oui.
Ces questions, c'est pas des exemples. Ce sont des exemples des explications qui donnent.
Oui.
Alors, si le principe est vrai et que les exemples, en quelque sorte, aujourd'hui, ne sont que justes.
Oui.
Je n'arrive pas bien à saisir.
Ben, faisons attention. C'est une purification, sûrement, de l'expérience. Les exemples, ce n'est pas l'expérience. On ne parle pas d'exemple en philosophie. L'exemple, c'est pour la rhétorique. L'exemple joue en rhétorique ce que l'expérience joue en philosophie. Or, la rhétorique, c'est la manifestation pour essayer d'expliquer ce qu'est un principe. Je prends un exemple, ce que Saint Thomas fait. Alors on dit à cause, parce que les exemples sont périmés, la philosophie est périmée. Ah non, la communication de la philosophie n'est plus la même. Je ne peux plus communiquer la philosophie d'Aristote de la même façon qu'Aristote faisait. Ça, je suis d'accord. Et la saisie des principes n'est pas à partir des exemples, c'est à partir de l'expérience. Oui. Donc distinguons bien expérience et exemple. Les exemples jouent pour la rhétorique. Un rhéteur, c'est un homme qui a beaucoup d'exemples. On le sait du reste, hein, quand il s'agit de réveiller quelqu'un, même dans un cours, on prend un exemple. Avoir des réserves. La prédication, c'est la même chose. Ou la rhétorique, il faut avoir des exemples. Mais voyez, c'est là la très grosse difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on dirait partez des exemples. Non. On part en du côté de la prédication, de la foi. La révélation, c'est pas des exemples. Expérience. Oui. C'est là où il faut bien distinguer. Mais il y a un lien entre les deux, hein, ça, je suis d'accord. C'est là où la purification n'est pas toujours commode.
Bon, regardons ce sur quoi porte l'exemple. Ce qu'il illustre.
Oui,
en fait, ça dépasse la modalité de l'exemple.
L'exemple n'est ni l'expérience, ni le principe, mais il illustre. Aristote dit textuellement en rhétorique. C'est très intéressant quand Aristote parle en rhétorique de ce que représente la démonstration du rhéteur. Il dit, elle se sert d'exemple. Oui.
Ce qui est quand même surprenant, c'est que dans ce premier chapitre, il regarde la méthodologie, il ne pose pas le problème. Il dit au départ, il affirme, l'âme est en effet comme le principe propre des êtres humains.
C'est sûr.
Oui,
mais... On est dans une attitude de réflexion critique.
Il présuppose donc.
On n'est pas encore dans la philosophie. Hein. C'est pas philosophique ça. C'est critique. Oui. Ce premier chapitre, il est critique.
Pourquoi il fait ça ?
Quoi ?
Pourquoi il commence ?
Ah, il commence comme ça, c'est par rapport à Platon et platonicien. Vous voyez ? Nous ne commencerions plus comme ça. On ne pourrait plus. Du reste, c'était la question que je voulais poser. Tout le monde pose ces questions avant. Pourquoi on ne dit pas traiter du vivant et on dit traiter de l'âme? voyez.
Est-ce que ce serait uniquement à cause de ce présupposé qu'il y a sur l'âme?
Oui, c'est présupposé. C'est qu'on est encore dans un climat religieux. Faut pas oublier. Vous voyez, dans un climat religieux et chrétien, vous pouvez parler de l'âme, la belle âme. Regardez les auteurs spirituels du 17e, ils ne parlent que de l'âme. Aujourd'hui, vous n'en parlez plus beaucoup de l'âme. Vous parlez de l'homme. Je me souviens, c'était le traité, le congrès thomiste, c'était sur l'âme chez saint Thomas. Et alors, le cardinal, celui qui est sur la famille, là, le Canadien Guénon, a commencé par dire, est-ce que parler de l'âme aujourd'hui, c'est anachronique ou non? Alors il avait tout un petit discours là-dessus, qui était très bien, qui était très astucieux, en disant, quand je regarde Vatican II, Vatican II emploie encore le terme de l'âme. Donc dans l'Église, on peut encore parler de l'âme. En dehors de l'Église, on n'en parle plus. Mais nous sommes ici entre théologiens, c'est normal que nous parlions de l'âme. C'est très juste. Au plan philosophique, faire un traité de l'âme aujourd'hui, on fait un traité du vivant pour ne pas heurter. Mais on sait que le vivant n'est pleinement intelligible que par l'âme. Alors vous voyez, c'est très curieux. C'est comme on parle de la philosophie de la nature. Il ne parle pas de la philosophie de la matière, alors que je crois aujourd'hui il faudrait parler de la philosophie de la matière, parce qu'on découvre les principes. Donc il faut partir de ce qui est immédiatement donné. Alors la scolastique a gardé traité, vous voyez, philosophie de la nature, philosophie cosmologiste, traité de la nature, traité de l'âme. Je crois qu'aujourd'hui en philosophie on peut dire traité du vivant. Mais qu'Aristote dit ça, ça fait partie de tout le climat religieux dans lequel il se trouve. Et dans tous les climats religieux, on parle de l'âme. Et dans la mesure où les traditions religieuses disparaissent, on ne parle plus de l'âme.
Est-ce qu'il n'y a pas ce chemin qui soit convoi dans sa deuxième approche au livre 2, où il a fait toutes ces grandes logiques avec les livres? Dans un climat religieux, il ne parle plus de l'âme directement, mais il parle du fait de vivre.
Est-ce qu'on peut pas dire qu'il
partie de cette logique qui qualifie la vision qu'on
peut
avoir sur l'âme?
Le pic est là pour, comme toujours, c'est la partie dialectique d'Aristote. C'est pour nouer le problème.
Est-ce qu'après il parle bien du point de départ de fait de vivre?
Il parle
pas forcément. Mmh. Il part de l'expérience après.
Et là, par contre, il parle plus. L'objet, c'est bien fait vivre, c'est plus l'âme. Il prend plus cet aspect.
L'objet. Quel est l'objet de la philosophie du vivant? Quel est l'objet du Périphégès? Il ne parle pas tellement ici. Mais il parle beaucoup plus de l'approche, la manière de s'approcher, donc de la méthode. Et au fond, ce départ, c'est pourquoi? C'est pour montrer qu'on demeure. Cette philosophie de la nature demande d'être complétée en philosophie première. Et donc, que le traité de l'âme est un traité hybride, il ne peut pas être enfermé dans la philosophie de la nature, il ne peut pas être uniquement philosophie première. Il est les deux. C'est donc d'une certaine manière une synthèse des deux. Mais ce n'est pas du tout une synthèse des deux. Et c'est ça, je crois, l'originalité. C'est ça l'originalité. Je ne peux pas enfermer le traité de l'âme dans la philosophie de la nature. Je ne peux pas regarder le traité de l'âme en philosophie première. Il y a quelque chose d'original et d'unique. Et c'est pour ça que dans notre monde d'aujourd'hui, c'est la question qu'on se posera. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître que la philosophie du vivant est une partie distincte de la philosophie de la nature?
Thank you.
On le verra après, au terme. Oui.
Pourquoi je n'arrive pas justement sur l'aspect de la philosophie de la vie ?
À cause de Platon. Tout le contexte est néo-platonicien. Il ne faut pas l'oublier, il a une dent contre l'académie. Hein. Il a été 20 ans à l'académie avec Platon, et puis on l'a éjecté. Alors qu'il aurait été le seul à pouvoir vraiment garder à l'académie sa grandeur. Le successeur de Platon, c'est qui ? Il n'est pas fameux le successeur de Platon. C'est difficile de succéder à Platon. Hein. C'est difficile. Mais normalement, Aristote, qui était considéré comme le disciple le plus éminent, a été éjecté. Toujours dans les successions, c'est comme ça. Le plus éminent, il est éjecté. On a mis un petit bonhomme. Théophraste.
Et Platon insiste beaucoup sur la théophraste.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Platon insiste beaucoup sur la théophraste.
Mais pas du tout. Platon, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas, la philosophie de la nature. La philosophie de la nature, c'est Aristote qui l'a repris au premier physicien. Pour Platon, il n'y a pas de philosophie de la nature. Il n'y a que un traité de l'âme. Alors, vous voyez, l'astuce. Platon parle de l'âme. Eh bien, parlons d'un péripsychèse. C'est à cause de Platon. C'est directement face à Platon. Partons du péripsychèse. Et le péripsychèse, vous ne pouvez pas connaître l'âme sans connaître les opérations de l'âme. Or, les opérations de l'âme impliquent des opérations complexes qui impliquent le sensible. Donc, la philosophie de la nature la présente. Vous voyez, c'est ça qu'il montre. C'est un plaidoyer. Il y a un petit peu de plaidoyer. En réalité, c'est une critique très nette contre tout le néoplatonisme. Vous ne pouvez pas parler de l'âme humaine sans partir d'un point de vue physique. Voilà. Autrement, vous perdez pédale tout de suite.
Puis, on ne parle pas de ce point de vue physique, on a amené à confondre les deux domaines du vivant et du physique.
Si on ne parle pas.
Si on ne parle pas du point de vue physique, comme chez Platon, qui n'a pas de philosophie de la nature, pourtant il parle d'une âme, du monde, et il y a toujours une espèce de. Une non-distinction entre les deux domaines de la nature et du vivant.
Oui.
Et c'est le principe.
Mais les distinctions ne sont pas faites. Vous voyez, je crois que Platon reste dans l'immanence de l'âme et essaie de voir la grandeur de l'âme. Vous voyez, la contemplation. De retrouver la dignité première de l'âme avant qu'elle soit unie au corps. Et donc la dignité de l'âme, c'est d'être séparé du corps. C'est ça, Platon. La dignité de l'âme, c'est d'être séparé du corps. Et donc, introduire le traité de l'âme par la philosophie de la nature, mais c'est odieux. Pour un platonicien, c'est odieux. C'est une dégradation. C'est une matérialisation. Et c'est pour ça que, historiquement, on a montré Aristote comme matérialiste. Et ce qui explique la position d'Averroès. Averroès prend le côté matériel d'Aristote et dit que la matière comme telle a des causes propres. Vous voyez, vous savez comprendre ces choses-là. Il faut comprendre combien Aristote, en commençant son traité de l'âme de cette manière, mais est en position diamétralement opposée au platonisme.
Est-ce que le monde n'a pas une âme?
Bon, le problème est très discuté. Et on ne peut pas le savoir. Parce que dans le Decello, vous avez un peu les deux positions. C'est très très délicat. Alors il y a eu des interprétations du premier Aristote, du second Aristote, ça c'est toujours l'exégèse facile. Premier Isaïe, deuxième Isaïe, troisième Isaïe, soit premier Saint-Jean, deuxième Saint-Jean, troisième Saint-Jean. Ça c'est les positions faciles. Retrouver par une méthode d'évolution appliquée à quelque chose qui n'évolue pas pour en tirer des conclusions. l'opération du vivant, c'est la vie nutritive qui est première. Et la vie nutritive fait partie de la philosophie de la nature. Oui.
Vous dites que Aristote ne structure pas sa métaphysique autour de la personne, mais c'est quand même toute sa philosophie entière qui est structurée autour de l'homme, parce que...
Ah, mais tout à fait, tout à fait.
Alors, quelle est la différence? Pourquoi est-ce que vous dites que c'est la métaphysique qui est structurée autour de la personne et pas seulement la philosophie en général?
Oui, mais ça, c'est très en dehors de notre sujet ici.
Non, parce que, je dis ça parce qu'en fait, la philosophie vivante, enfin, le traité de l'âme, au terme, ça rejoint la métaphysique, ou parce qu'au début du livre Zeta, il dit que le travail sur la substance, c'est pour voir s'il peut exister des substances séparées.
Exactement. Oui.
Alors, quelle est la différence de la vision sur l'homme que vous avez par rapport à...
Je veux bien, mais c'est un peu différent.
Un
peu extrinsèque. Oui, il faut poser cette question peut-être par rapport aux questions et discussions, parce que ça, c'est importante. On la verra pendant toute l'année, puisque le cours de cette année-ci, c'est sur la personne. Vous voyez ? En disant ça, j'ai dit, je n'ai jamais dit que ma métaphysique était distincte de celle d'Aristote, puisque les principes d'Aristote, substance et acte, je les reprends. Or, une distinction d'une science par rapport à une autre peut se faire que par rapport à des principes propres. Mais c'était la question que j'avais posée à Gilson. Quand Gilson me disait la métaphysique de Saint-Thomas est autre que la métaphysique d'Aristote, je dis à Gilson, dites-moi quel est le principe propre de la métaphysique de Saint-Thomas qui n'est pas dans Aristote. Ah, il a décoincé. Oui.
Aristote étudie l'esprit dans la philosophie, enfin dans des animaux, et vous dites que c'est par la métaphysique qu'on connaît l'esprit.
Oui, tout à fait. Mais Aristote n'étudie pas l'esprit entièrement dans les... L'esprit, pour Aristote, ne peut être défié pleinement qu'en philosophie première. Ça, c'est net. Il le dit. La philosophie première, c'est pour étudier ce que c'est que Dieu et le nous. Le traité, c'est le traité Péripsychès. Pas périnoésis ou péri par rapport à l'intelligence. C'est pas le traité sur l'intelligence, c'est le traité de l'âme. Pourquoi? Parce que pour Aristote, il ne peut pas y avoir de connaissance profonde sans la substance ou sans la nature. Et toute la question sera de savoir si le nous et substance ou pas substance. Donc, Aristote est tout à fait conscient que son traité de l'âme n'étudie pas entièrement ce que c'est que le nous. Pour savoir parfaitement ce que c'est que le nous, il faut savoir ce que c'est que l'être, puisque c'est l'objet qui détermine l'opération. Or, l'opération de l'intelligence est déterminée par l'être. Donc, il faut savoir ce que c'est que l'être. Sens-là, que le nous est parfaitement connu qu'en philosophie première. Et d'autre part, dans la philosophie d'Aristote, il étudie Dieu et le nous. Nous nous dirions Dieu et la personne humaine. Vous voyez ? C'est là où je dis qu'on explicite certaines choses d'Aristote. C'est uniquement au niveau du quand j'ai introduit la personne en philosophie première, ce n'est pas un nouveau principe. C'est pour essayer de mieux comprendre la manière d'être, de l'être, tel que je peux l'expérimenter. Et ceci en vue de mieux poser le problème de l'existence de l'être en premier. Vous voyez ? Donc c'est dans ce sens-là que j'ai dit, introduisons la personne dans la métaphysique. Moi, ça m'avait beaucoup frappé et choqué que dans toutes les métaphysiques dites scolastiques, dites thomistes, transcendantaux et ne parle pas de la personne. J'évacue les transcendantaux en critique et je mets la personne en philosophie première. Voyez, ce que je crois, ce que nous devons faire aujourd'hui, parce que la personne est traitée autrement, d'une manière purement phénoménologique. Max Scheler. Et alors, vous avez le danger à ce moment-là de croire que vous ne pouvez parler de la personne que de cette manière-là, et non plus en philosophie première. Oui.
Donc,
ah non, absolument pas. Vous allez bouger. Vous étudiez l'esprit par le vivant. Or, l'esprit ne peut s'étudier parfaitement que par l'être. Alors on touche ce problème très important dont je parlais l'autre jour en disant métaphysique de l'être, métaphysique de l'esprit, de l'intelligence et de l'amour. Devons-nous dire ça? Devons-nous établir une nouvelle métaphysique pour l'esprit? Ou devons-nous dire que la métaphysique de l'être, c'est la métaphysique de l'esprit? C'est le problème de cette manière-là, parce que le bon père Dubarle, dans la dernière année de l'Institut catholique, avait commencé en disant « c'est la dernière année où j'enseigne, je vais poser ce problème qui me tracasse et qui m'a tracassé toute ma vie ». Et c'est vrai, quand on connaît Dominique Dubarle, on sait que c'est le problème qui l'a tracassé toute la vie. Faut-il maintenir la métaphysique d'Aristote? Faut-il, dans notre monde d'aujourd'hui, faire une métaphysique de l'esprit? Aristote, Descartes, en gros, pouvons-nous dépasser ce dilemme et avoir une nouvelle métaphysique qui soit une métaphysique à la fois de l'être et à la fois de l'esprit? Oui, c'est, je crois, le problème qu'on doit se poser, parce que si on ne se pose pas explicitement, on ne peut pas répondre. On doit se poser cette question.
Pour parler de l'immortalité de l'âme.
Il a touché un petit problème tout à l'heure, parce que l'immortalité de l'âme, Aristote ne le résout pas. Dans le Dianima, Aristote ne résout pas. Or, Aristote se pose le problème de l'immortalité de l'âme, puisque c'est un problème de tradition religieuse, que Platon, Aristote sait que c'est fondamental pour la philosophie. Or, en Périple, c'est extraordinaire.
Il donne deux éléments. C'est que d'une part, en métaphysique, il peut exister des substances séparées, d'autre part, le nous peut être séparé. Oui. Mais quel serait le troisième élément qui pourrait lui permettre de conclure l'immortalité de l'âme?
Le problème de la création et la vision de sagesse.
Donc la philosophie du vivant ne peut pas en parler?
Non. La scolastique a voulu réintroduire le problème de l'immortalité en philosophie du vivant. C'est une erreur. Cachetons. Là-dessus, il a été très critiqué, mais je crois qu'il a parfaitement raison. Quand il dit qu'en philosophie du vivant, je ne peux pas prouver l'immortalité de l'âme. Alors l'erreur de Cachetan, parce qu'alors, quand il dit ça, il a l'air de dire que la philosophie ne peut pas prouver l'immortalité de l'âme. Alors on a tapé sur les doigts de Cachetan, dit c'est dangereux de dire ça. Parce que l'immortalité de l'âme fait partie des préambules à Fidei. Pour saint Thomas. Or, je crois que l'immortalité de l'âme, je ne peux en parler que dans une vision de sagesse et en philosophie. Et ça, c'est très important, parce qu'autrement, ça devient un problème apologétique. Oui, comme l'existence de Dieu. Ce sont des problèmes qui sont devenus apologétiques. Alors que dans une vision de sagesse, je peux montrer que de fait, l'âme est nécessairement immortelle. Parce que créée immédiatement par Dieu.
Le problème de la génération.
De la procréation. C'est ça.
Vous touchez quand même à quelque chose d'autre.
Oui, mais le problème de la procréation ne prouve pas que la vie est immortelle.
Non, il y a un
Oui, mais quand je parle d'une vision saine. Quand je parle d'une vision de sagesse, je reste en philosophie pure. La philosophie pure implique une vision de sagesse. Ce que nous avons fait la dernière. Oui, la vision de sagesse ne fait pas appel à la foi. La philosophie est une sagesse. Si elle est une sagesse, elle a donc une vision de sagesse. Le problème de la création fait partie de la philosophie. Et à partir de la création, j'ai une vision de sagesse. Mais qui n'est pas du tout développée. C'est jamais développé, ça c'est pas vrai. Mais ça, c'est pas parce que c'est jamais développé que ça n'existe pas.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on affirme qu'il y a quelque chose qui dépasse la corruption, on est en philosophie du monde.
Non. Parce que vous ne pouvez affirmer qu'il y a quelque chose qui existe au niveau intentionnalité. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Je ne peux pas passer de l'intentionnalité de l'universel à la substance dans l'ordre de l'être. Or, corruptible et incorruptible qualifient des substances, comme dit Aristote dans la métaphysique. La substance est ou corruptible ou incorruptible. Seule la substance. Vous ne pouvez pas parler d'une opération incorruptible. Ça n'a pas de sens. C'est la substance seule qui est qualifiée de corruptible ou d'incorruptible. Mais pour pouvoir parler de l'incorruptibilité de l'âme, le métaxu, c'est l'opération spirituelle, intellectuelle qui attaque l'universel. Or, l'universel, je le saisis dans une forme intentionnelle. Je ne qualifie pas la substance universelle. Je qualifie une opération intellectuelle. Et je qualifie l'objet de cette opération intellectuelle d'universel. Donc, passer de la forme intentionnelle à l'incorruptibilité, ce serait passer de l'intentionnel à l'être. Je ne peux pas passer de l'intentionnalité à la substance. Ce que Camille a souligné tout à l'heure.
Oui. Je voudrais vous demander, puisque l'immortalité de l'âme se voit aux visions de sagesse, qui est philosophique, est-ce qu'Aristote l'a fait, cette vision de sagesse, ou est-il
Vous n'avez aucun livre d'Aristote qui le fait, mais il y a un traité du Péri tout est où, qui est perdu. Donc il était possible qu'Aristote l'ait fait, mais je n'en sais rien. Donc il ne faut pas trop le soutenir. Mais il faut savoir qu'il y a un livre Peritoutéo. Or, étant donné la rigueur d'Aristote, ce n'est que sur un livre Peritoutéo qu'il pourrait parler de la création et de la vision de sagesse.
Est-ce qu'il pouvait en rester simplement à la séparation du nous? On se pose la question, est-ce que
il y a la philosophie première. Au-delà de la philosophie de la nature, au-delà du péripsychèse, il y a la philosophie première. C'est à partir de la philosophie première que vous devez essayer de comprendre ce que pouvait être pour Aristote le péritoutéo. Le traité sur Dieu. Mais le traité sur Dieu, s'il a existé, s'il n'a pas été perdu, et qu'il a été un traité vraiment fait par Aristote, implique nécessairement le traité sur la création. Et à partir du traité sur la création, il implique nécessairement cette nouvelle vision sur l'homme. Mais c'est d'ordre hypothétique puisque c'est perdu. Mais dans les listes des livres d'Aristote, il y a le Peritoutéo. C'est le seul argument que j'ai. Que les néoplatoniciens comme Proclus ont utilisé. Saint Thomas, oui, mais Saint Thomas, c'est dans une vision de foi, tandis que Proclus est dans une vision purement philosophique. Proclus dit textuellement, étant donné ce qu'Aristote dit en philosophie première, sur les rapports dit avant saint Thomas. Mais ça a été dit par Proclus, un néoplatonicien. Les néoplatoniciens ne s'opposent pas à l'aristotélisme. Ça, c'est les modernes qui font ça. Les néoplatoniciens absorbent l'aristotélisme. Ils s'en servent. Il y a une méthode, il y a une critique générale.